RFI, 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et tout de suite le journal. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Julien et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce matin, situation toujours confuse à Bukavu, en RDC, la capitale du Sud Kivu, où des hommes du M23 ont été signalés, mais le groupe armé soutenu par le Rwanda ne revendique pas le contrôle de la ville. Dans ce journal, reportage côté rwandais où des réfugiés congolais tentent de passer la frontière. Le suspense aura duré jusqu'au bout. La commission de l'Union africaine a un nouveau président. Et surprise, c'est le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf. Il n'était pas le favori. Le sommet de l'UA où les dirigeants africains ont aussi décidé la création d'une agence de notation panafricaine. Au sommaire également, on est au Niger, première journée des assises nationales. Hier, à la frontière entre le Niger et le Bénin, où les commerçants sont toujours victimes des tensions diplomatiques entre les deux voisins. Et puis au Tchad, pour évoquer l'inflation alimentaire, le ministère du Commerce veut forcer la main des opérateurs économiques et faire baisser les prix de la poudre aux yeux, disent les organisations de la société civile. On vous raconte tout à la fin de ce journal. Il faut éviter à tout prix une escalade régionale. Les mots du chef de l'ONU hier à Addis Abeba. Antonio Guterres s'exprime sur la situation dans l'est de la RDC. Déclaration alors que la situation sécuritaire est encore très incertaine à Bukavu, où des hommes du M23 ont été signalés hier. Information confirmée par une source gouvernementale congolaise. Mais ce matin, le groupe armé soutenu par le Rwanda ne revendique pas le contrôle de la capitale du Sud Kivu. Certains civils, eux, ont déjà fait le choix de quitter la ville et de passer de l'autre côté de la frontière, dans la ville voisine de Rusizi. Reportage sur place de Lucie Mouillot.
Devant le poste de Rusizi 1, quelques habitants de Bukavu traversent la frontière malgré l'absence d'agents de l'immigration congolaise. Esther Marlène est étudiante, elle est venue se réfugier chez des proches.
Ça fait très peur, les gens ne sortent pas des maisons, ils sont enfermés à la maison. Donc je vais d'abord rester ici un peu. Et si les mouvements recommencent à Bukavu, je rentre.
Pour atteindre la frontière, Lisa Mouchangaloussa a traversé une ville de Bukavu presque déserte, profitant du calme apparent pour se déplacer malgré quelques tirs sporadiques entendus jusqu'à Rusizi.
Tout est fermé. Tous les commerces, les boutiques, tout et tout. On a vu comment on a massacré nos frères et sœurs de Goma. On a peur que ça se passe de la même manière parce que personne ne peut vouloir que ce soldat-là lui arrive.
Certains se déplacent pour la deuxième fois en quelques semaines après avoir fui Goma pour se réfugier à Bukavu. Avec un simple sac sur le dos, Jano Mounkwakonkwa cherche encore où aller.
Jusque là, je ne sais pas quelle direction je vais prendre, mais je suis sûr que je suis en train de fuir. Ce n'est pas la première fois que je me déplace à cause des atrocités comme ça, des hostilités. Donc, s'il s'agit de parler de l'espoir du peuple, en tout cas, c'est difficile. Ce n'est pas le moment de dire qu'au Congo, nous avons un libérateur. Non, moi, je ne les vois pas.
Les passages transfrontaliers étaient bien moins nombreux que d'habitude ce samedi, face à l'incertitude sécuritaire et aux craintes de pillage dans Bukavu. Lucie Mouillot, Rusizi, RFI.
Et c'est justement en raison de la situation sécuritaire à Bukavu que Félix Tshisekedi a annulé sa venue au sommet de l'Union africaine. Il était représenté hier par sa première ministre. Ce samedi, à Addis Abeba, marqué par l'élection d'un nouveau président de la commission de l'Union africaine, le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf. Il prendra ses fonctions le mois prochain pour 4 ans. Autre décision lors de ce sommet économique, cette fois, la création d'une agence de notation panafricaine. Charlotte Cosset, les dirigeants africains dénoncent des biais injustes des agences occidentales.
Voir sa note fortement dégradée et être considéré comme un pays dit poubelle par l'agence Fitch a été la goutte d'eau pour le président éthiopien Taye Atke Selassie.
Malgré les progrès que nous avons réalisés, les agences de notation internationale présentent souvent une vision déformée et peu constructive de nos économies. Leurs évaluations sont imprévisibles et incohérentes. Ce manque d'objectivité dans la notation de nos économies a d'une part gravement entravé notre capacité à accéder aux capitaux et d'autre part cela limite notre capacité à nous intégrer dans le système financier mondial.
Des biais des agences de notation qui auraient fait perdre 75 milliards de dollars d'opportunités d'investissement au continent selon une étude citée par le président kényan William Ruto.
Une agence de notation africaine, selon moi, n'est pas seulement une alternative, c'est un impératif. Cette agence doit être crédible au niveau mondial, s'appuyer sur des données rigoureuses, répondre à des normes d'évaluation strictes. Mais surtout, elle doit refléter correctement la réalité de l'Afrique. Nous ne ferons pas ce voyage seuls. Nous construirons des alliances fondées sur des valeurs communes de dignité, d'équité et de progrès.
Selon la même étude citée par William Ruto, la revalorisation d'un cran des notes africaines permettrait de débloquer 15 milliards de dollars d'investissement.
Charlotte Cosset du service économie de RFI et tous les détails et les coulisses de ce sommet de l'Union africaine à lire sur notre site rfi.fr. 5h35 en temps universel. C'était un rendez-vous très attendu, 18 mois après l'arrivée au pouvoir des militaires. Au Niger, première journée des assises nationales hier, rendez-vous ouvert par le général Tiani, en présence des gouverneurs, de leaders religieux ou encore de quelques représentants de la société civile. Eva Massil est le chef des militaires au pouvoir, a réaffirmé que la durée de la transition serait fixée au terme de ces 5 jours de discussion.
Devant une salle comble, le général Abdourahamane Tiani a ouvert ses assises nationales sur un court discours, retransmis à la télévision nationale, dans lequel il a rappelé les objectifs de l'événement.
1. Définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. Définir la période de la transition. 3. Définir les priorités nationales durant la transition. 4. Rappeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République.
Le chef des militaires au pouvoir a ensuite précisé que si l'organisation de ces assises avait pris autant de retard, c'est parce que le Niger fait face, je cite, à l'animosité de certaines puissances occidentales et leurs complices africains. Abdourahamane Tiani est ensuite reparti au palais et les 5 commissions se sont réunies pour se mettre au travail. Des délégations officielles du Burkina Faso et du Mali étaient présentes, ainsi que l'ancien président Issoufou Mahamadou, qui s'est ensuite envolé pour le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Quant à l'ancien premier ministre Ibrahim Hassan Mayaki, dont la présence était annoncée, il était finalement absent, tout comme les représentants des partis politiques suspendus depuis juillet 2023.
Eva Massi, le Niger, dont les relations avec le Bénin sont toujours en cours de normalisation. Entre Niamey et Cotonou, vous le savez, les rapports se sont détériorés dans la foulée du coup d'État du 26 juillet 2023. Le Bénin a rouvert la frontière l'an dernier, mais le Niger la maintient toujours fermée. Le pont qui relie Malanville à Gaïa, les deux villes frontalières, est toujours bloqué. Mais depuis le mois de novembre, la traversée du fleuve, elle, a été réautorisée après 6 mois d'interdiction. Une petite bouffée d'air, mais insuffisante pour les commerçants de Malanville, côté Bénin. Reportage de Magali Lagrange.
Ce matin, nous avons pris le bus, nous sommes arrivés à Gaïa et nous avons pu faire le passage à travers le fleuve. Donc nous avons pu des pirogues qui nous ont déposés à Malaville.
Encore quelques heures de patience pour cet étudiant nigérien. Assis sur un banc du terminal d'une compagnie de bus, il attend de poursuivre son trajet vers Lomé. Parti de Niamey, il a pris un premier bus jusqu'à Gaïa, au Niger, avant de traverser le fleuve pour rejoindre Malanville sur la rive béninoise.
C'est très pénible. Disons que j'ai un peu cette phobie, j'ai peur de cette pirogue qui est tout juste au niveau du fleuve, c'est très compliqué. Il y a souvent même des bousculades qui tendent à renverser le pirogue avec tout ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que se contenter de cela pour le moment.
Après 6 mois d'interdiction, la traversée du fleuve est de nouveau autorisée pour les personnes comme pour les marchandises. Le marché international, poumon économique de la zone, est bien achalandé. Devant sa boutique, ce revendeur de tissus reconnaît que l'autorisation de la voie fluviale a un peu amélioré les choses, même si cela reste bien insuffisant à ses yeux, car les Nigériens représentaient une part essentielle de la clientèle.
Même si la voie fluviale est autorisée, certaines personnes ont tellement peur, ils n'arrivent même plus d'abord à voyager. Même ceux qui viennent en même temps d'abord sur le frontière là-bas, là, on les bouleverse donc. Ils sont pressés de quitter Malanville. Il n'y a pas encore la circulation. La Nigérie, ils rentrent même d'abord dans le marché pour regarder les attiques.
Dans la ville frontalière, on espère toujours la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger. Magali Lagrange, de retour de Malanville, RFI.
En bref, au Mali, au moins 48 morts dans l'effondrement d'une mine d'or artisanale. Le drame a eu lieu dans la région de Kaï, dans l'ouest du pays. Le site d'orpaillage était principalement exploité par des ressortissants chinois sans les autorisations nécessaires. Le mois dernier, un autre éboulement avait fait 70 victimes, cette fois dans le sud du pays. C'était il y a un an, au Cameroun, l'affaire Hervé Bopta provoquait une vive émotion. Début 2024, cet homme d'affaires, membre d'une élite fortunée, était mis en cause dans des dizaines de témoignages sur les réseaux sociaux. Viol, violence, menace avec armes, il a été arrêté en janvier 2024 à Douala, puis placé en détention provisoire. Mais le juge d'instruction n'a pas décidé s'il prononçait un non-lieu ou s'il y aurait un procès. Entre-temps, Amélie Tullet, Hervé Bopta est sorti de prison.
Libre depuis 6 mois, sorti mi-août dernier, une liberté provisoire accordée par le juge qui n'a pas clos son instruction. Ni non-lieu, ni renvoi en jugement, l'affaire est en suspens parce que le dossier est vide, selon Roland Ojong Achou, avocat de Hervé Bopta.
Si vous n'avez plus entendu parler de l'affaire, c'est qu'il n'y avait rien à dire. Ce n'était que des allégations sans fondement pour nuire à la réputation d'un innocent.
La thèse de la calomnie orchestrée, l'internaute à l'origine du buzz, connu sous le pseudo Nzimanto, la rejette.
Les propos de son avocat, ça s'inscrit un peu dans ce sillage-là, en fait. On est jaloux de lui, c'est de la diffamation, c'est important. Les victimes, elles ont reçu des menaces et des menaces et des menaces.
Diffamation ou affaire étouffée par des pressions, sans vérité judiciaire, on reste dans le flou, déplore Cyril Roland-Béchon, directrice de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme.
Cette affaire, comme beaucoup d'autres affaires au Cameroun, qui défraient parfois la chronique, s'arrête comme ça parce que le pouvoir judiciaire n'est pas assez fort, pas assez indépendant pour aller au bout, n'est-ce pas, des procédures et pour, justement, dans une logique de protection de la société camerounaise. Mais malheureusement, c'est là où on en est au Cameroun.
Comment une affaire aussi grave peut-elle se retrouver ainsi dans les limbes? Pour Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir, la société civile manque de moyens pour suivre ses affaires au long cours et maintenir la pression sur le pouvoir judiciaire.
Amélie Tullet, on part pour le Tchad avant de refermer ce journal pour évoquer une problématique qui n'épargne pas le pays depuis plusieurs mois, l'inflation alimentaire. À quelques jours du mois de Ramadan, le ministère du Commerce a interpellé les opérateurs économiques pour qu'ils baissent le prix des denrées alimentaires. Correspondance N'Djamena d'Olivier Monodji.
Natacha, jeune infirmière de retour du marché central ce samedi, toute furieuse, explique qu'elle a de la peine à remplir son panier. Pour cause, la cherté des denrées alimentaires.
Les prix des mille et autres, tout est élevé. Et encore à l'approche de Ramadan, encore là, ça serait le pire.
Le gouvernement tchadien qui vient d'exonérer des droits et taxes à l'importation de certaines denrées alimentaires dit vouloir alléger le fardeau financier des ménages. Guy Bolo Fanga Mathieu, ministre du Commerce, interpelle les opérateurs économiques.
Si d'un côté il y a exonération et de l'autre le prix ne fait que grimper, et quiconque viole la loi s'expose à des sanctions.
Un non-événement et même une utopie, estiment les organisations de la société civile. Moussa Mahamat Mahdi, président de la Dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur au Tchad.
Face aux opérateurs économiques très virés, il ne saurait que cet appel puisse être respecté. Donc il faudrait qu'il y ait des politiques concrètes pouvant permettre en fait à la ménagère de pouvoir joindre les deux bouts. Il faudrait également mettre en œuvre des politiques volontaristes afin de juguler la cherté de vie. Et c'est le président de la République qui directement est interpellé.
Les consommateurs tchadiens ne savent à quel saint se vouer, car pour eux, la fin du calvaire n'est pas pour aujourd'hui, alors que le mois du Ramadan commence le 28 février prochain. Olivier Monodji, N'Djamena, RFI.
Et c'est à N'Djamena où il est 6h43 que je vous repasse la main, Julien Coquet.